France Musique. Musicopolis. Le roi danse, ballet de cour chez Louis XIII. Chaque époque a ses divertissements, chaque groupe social également. Au début du XVIIe siècle en France, on danse, partout. À la ville, à la campagne, à Paris, à Marseille et à Bordeaux, chez les riches, chez les pauvres, chez les paysans, chez les bourgeois et chez les nobles. Paradoxalement, ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qui touche le plus petit nombre, à savoir la cour. C'est paradoxal et pourtant bien compréhensible. Tout ce qui approche de la personne du roi doit être noté, documenté, rapporté, mis en valeur. Nous avons donc abondance d'archives à ce sujet. L'une des manifestations les plus extraordinaires de la danse sous Louis XIII, c'est le ballet de cour. Qu'est-ce que recouvre ce terme de « ballet de cour » ? Un ballet dansé à la cour. Certes, mon cher Lapalisse, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Le mémorialiste Michel de Marolles le définit ainsi. Ce n'est autre chose qu'une danse de plusieurs personnes masquées sous des habits éclatants, composés de diverses entrées ou parties qui se distribuent en plusieurs actes et se rapportent agréablement à un tout, avec des airs différents pour représenter un sujet inventé où le plaisant, le rare et le merveilleux ne sont point oubliés. N'importe qui peut décider de monter un ballet de cour. Un courtisan ou un autre, un prince ou bien encore le roi lui-même. Tout le monde participe. Les courtisans qui représentent la plupart des personnages, les musiciens du roi et quelques danseurs professionnels qui interprètent les rôles les plus acrobatiques. On les monte souvent l'hiver, où ont lieu d'abord le grand ballet du roi, puis le grand ballet de la reine. On arrête au carême et on reprend à l'automne. Comme le dit Georgie Durosoir dans le livre de référence sur le sujet, on a toujours une bonne raison de monter un ballet de cour. Des raisons plus intimes, anniversaires, fêtes des uns et des autres, ou des raisons d'État, visite de monarque ou événements à célébrer. Thank you. Depuis toujours, on danse à la cour, bien sûr. Mais l'idée d'arranger les danses en un grand spectacle au cours duquel on chante, on danse, on récite, date de 1581, sous Henri III, lorsqu'a été donné au Louvre le ballet comique de la Reine pour les festivités du mariage du duc de Joyeuse avec Marguerite de Vaudémont, sœur de la Reine. Ce ballet comique de la Reine a été magnifiquement monté. Le roi a mis des moyens considérables et de nombreux artistes ont été impliqués dans sa fabrication. Poètes, musiciens, chanteurs, danseurs, ingénieurs, machinistes. Le souvenir en a été conservé, comme d'une manière générale, celui des grandes festivités de cour, qui doivent toujours participer à la gloire des souverains. Régulièrement ensuite, d'autres réjouissances du même genre ont été données. Ce ne sont pas des pièces très structurées. L'idée est surtout de divertir, et avec un maximum de fantaisie, avec des personnages très colorés, burlesques, souvent grotesques, des spectacles largement inspirés des mascarades à l'italienne. Pour vous faire une idée du genre des ballets de cour inspirés des mascarades italiennes qu'on représente du temps de Henri IV, écoutez leurs titres. Ils s'appellent par exemple « Ballet des fous », « Ballet des barbiers », « Ballet des garçons de taverne », « Ballet des bouteilles et des dames » ou encore « Ballet des paysans et des grenouilles ». On n'imagine pas que les scènes soient d'un sérieux parfait. Néanmoins, vers 1610, toute fin du règne de Henri IV et début de la régence de Marie de Médicis, on commence à voir des ballets mélodramatiques. Tout simplement, des pièces dont l'action est plus ou moins unifiée par un thème. Par exemple, le ballet pour Monseigneur le Duc de Vendôme, dit aussi « ballet d'Alcine », en référence à la magicienne du Roland Furieux de l'Arioste. La magicienne, éprise de la beauté de 12 chevaliers errants, est mêlée à de multiples personnages burlesques, comme le magnifique Messire Gobemagne, grand confalotier de l'île des singes. Le palais d'Alcine, dans une forêt touffue, est fait en forme d'amphithéâtre, orné de plusieurs portiques, colonnes, niches et figures antiques. La description du costume d'Alcine montre les moyens fastueux mis en œuvre pour la représentation. Il n'y est question que de gazes d'or, de lamées d'argent, d'étoilettes d'or, de perles rondes, de gros rubis et de belles émeraudes. Et ce n'est encore rien par rapport à la mise en scène. Une scène de mer, nous dit un témoin, succéda à la forêt et fit voir des tritons et des tritonides qui jouaient des hautbois. Le ciel s'ouvrit en même temps où 30 musiciens de la chapelle du roi firent entendre un agréable concert répondant à la musique de la chambre qui faisait le chœur des tritons. Après un dialogue chanté par ces deux chœurs de musique de la chambre et de la chapelle, parut un grand char tiré par des amours volants. Sur ce char était Madame de France avec 14 dames de sa suite, qui représentait Minerve au milieu des vertus qui l'accompagnaient. Tous les luths, les voix et les violons joints ensemble, 40 personnes étaient en même temps sur la scène, 30 dans le ciel, 10 suspendus en l'air, tous dansant et chantant en même temps. Grâce au journal quotidien que tient son médecin, on sait que le dauphin Louis, futur Louis XIII, assiste à ce ballet. Louis est très musicien. Il joue du luth, du violon et il chante. Il est très timide et donc un peu moins féru de danse. Mais néanmoins, il apprend aussi bien les danses de cour que les danses plus populaires qu'il voit danser par les sujets du royaume. Dès qu'il sera roi à son tour en 1617, il va être l'instigateur de ballets comme le ballet de la délivrance de Renaud. Le même genre d'histoire que celle d'Alcine, une magicienne qui tient prisonnier des chevaliers qui seront libérés à la fin du spectacle. Et cette fois-ci, le sujet vient de la Jérusalem délivrée du Tasse, très appréciée à cette époque, et pour encore très longtemps. La musique des airs chantés dans le ballet de la délivrance de Renaud, donné en 1617 par Louis XIII, était de Pierre Guédron, auteur aussi du récit d'Alcine que nous écoutions tout à l'heure. Il a été surintendant de la musique d'Henri IV, puis de Louis XIII. Dans le même ballet, on entendait aussi des pièces d'autres musiciens de la cour, d'Antoine Boesset, de Gabriel Bataille et de Jacques Mauduit. Mauduit dirigeait la musique instrumentale qui, selon les récits de l'époque, rassemblait 28 viols et 14 luths pour l'accompagnement des airs et des récits. Ce qui est énorme. Et bien sûr, les ensembles d'aujourd'hui n'ont pas les moyens de réunir autant de musiciens. Pour les danses, on rajoutait encore les 24 violons du roi. Louis XIII lui-même dansait dans ce ballet, le premier de son règne. Symboliquement, la délivrance de Renaud du pouvoir de la magicienne Armide représentait la délivrance du jeune Louis de la tutelle de sa mère Marie de Médicis et de son âme damnée Concini. La dernière entrée, qui célébrait cette délivrance, était la plus imposante. Le nombre de 92 voix et de plus de 45 instruments étant joints ensemble faisait un si doux bruit qu'il ne semblait point revenir au quart de ce dont il était composé. Dans les ballets de cour, s'il endosse parfois le rôle du feu ou celui du soleil, Louis XIII aime par-dessus tout incarner des rôles modestes et burlesques. Il a été par exemple Pantalon dans un ballet de 1616, un voleur dans le ballet des Bacchanales, un chaconniste espagnol dans le ballet des Fées de la Forêt de Saint-Germain, un gentilhomme persan et un grenadin joueur de guitare dans le bal de la Douairière de Bilbao, ou encore un capitaine hollandais dans le ballet des voleurs. Les différentes parties du ballet sont appelées les entrées. Suivant les circonstances et le faste du divertissement, un ballet en comporte plus ou moins. Selon Saint-Hubert, qui écrit un livre sur le sujet en 1641, un grand ballet est ordinairement de 30 entrées. Un beau ballet de 20 au moins, un petit ballet de 10 ou 12. Vous voyez qu'il y en a pour tous les moyens, toutes les situations et tous les publics. Puisqu'en effet, beaucoup de ballets sont conçus tout de même en dehors de la cour royale. On en donne dans les maisons des aristocrates, à Paris, mais aussi un peu partout en France, où la vogue a gagné. Les ballets de cour sont l'occasion d'un joyeux mélange des genres et des cultures. On y trouve de nombreuses figures d'étrangers qui peuvent être parfois des groupes fantaisistes. Les caldarostes, les piombins et les trastules venus d'Italie. Les vilains, les canariens et les rodomonteux d'Espagne dans le ballet des quatre monarchies chrétiennes. On se moque bien entendu de tous. C'est que de plus en plus, les ballets de cour ont une portée politique. Il faut montrer non seulement la gloire du roi, mais aussi la supériorité de la France sur les autres nations.
Poursuivez,
Le ballet de la prospérité des armes de France, de 1641, est l'un des derniers du règne de Louis XIII. Comme le dit bien le titre, il vise à réaffirmer la domination française sur le monde et par la même occasion, la gloire du roi de France. Avec ses 36 entrées, c'est l'un des ballets les plus fastueux du règne. Louis XIII y est représenté par le héros Hercule, qui accomplit des travaux héroïques. La commande a été passée par Richelieu, pour célébrer les victoires d'Arras et de Casals sur les Espagnols. Le ballet raconte les prospérités de cette année par mer et par terre. Au moins une partie, car il serait difficile de représenter en un soir ce qui a occupé durant tant de mois les veilles et les travaux de tant d'hommes et l'attention de toute l'Europe. Parmi les assistants, le jeune dauphin Louis Dieudonné, futur Louis XIV, âgé de 2 ans et demi. Dans quelques années à peine, c'est lui qui ordonnera les magnifiques ballets de cour qui donneront bientôt naissance à l'opéra. Le récit de la Concorde au 5e acte du ballet de la prospérité des armes de France de 1641, musique de François de Chancy, joué ici par la Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Rennes. Le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Benjamin Vignal pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.